Présentation de notre conférencier de ce soir, Pierre Léna. Pierre Léna est né le 22 novembre 1937 à Paris. Il est depuis 1993 professeur de physique et d'astrophysique à l'université de Paris 7 Denis Diderot. Il est chercheur à l'Observatoire de Paris-Meudon et membre de l'Académie des sciences depuis 1991. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de physique, docteur en sciences. Pour son parcours, je mentionnerai un certain nombre de dates. Il est devenu professeur d'astrophysique à l'université de Paris 7 Denis Diderot à partir de 1973. Entre 1986 et 1993, il a été le représentant de la France au Conseil de l'Observatoire européen austral. En 1989, il a été président de la Société française de physique. Et entre 1991 et 1997, il a été président de l'Institut national de recherche pédagogique, l'INRP. Il est spécialiste notamment d'astronomie par infrarouge, d'interférométrie, d'optique adaptative, etc. Il a publié de très nombreux articles dans des revues spécialisées nationales comme internationales et il a également participé à un certain nombre d'ouvrages ou écrit un certain nombre d'ouvrages, j'en mentionnerai certains. Il a donc écrit « L'espace pour l'homme » qui était publié chez Flammario Collection Domino en 1993 et je le mentionne qui a été traduit en coréen et en portugais. Il a participé à un ouvrage collectif présenté par Georges Charpak, La main à la pâte, l'enseignement des sciences à l'école primaire. C'est publié chez Flammarion en 1996, également traduit dans de nombreuses langues, le portugais, le vietnamien, l'arabe, le chinois. Il a également dirigé un ouvrage, Les sciences du ciel, publié chez Flammarion en 1996. Il est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre du Mérite, notamment. Voilà. Pierre Léna, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre d'une vingtaine de minutes avec le public. Merci.
Merci. Merci à vous d'être venus si nombreux ce soir, malgré le départ en vacances, le week-end, le retour du beau temps. Merci d'avoir consacré cette dernière soirée du cycle d'astronomie. Je suis heureux d'intervenir après trois de mes collègues partenaires, amis, élèves. C'est vraiment une très belle occasion qui m'est offerte ce soir de vous parler, à propos d'images du ciel, de ce que j'ai appelé la quête de la finesse. La quête de la finesse, c'est la recherche du détail. Toujours plus de détails. Les astronomes recherchent cette finesse, ces détails, dans les images de l'univers proche ou de l'univers lointain. Et pour trouver ces détails, ils construisent des instruments qui tous, d'une manière ou d'une autre, manipulent la lumière. Mais la lumière est rétive. La lumière est docile à l'instrument, mais rétive aussi à ce qu'on veut lui faire dire, lui faire exprimer, à cause des propriétés physiques de cette lumière. Ainsi, le jeu que je vais décrire, d'une part, a des objectifs, les détails, et que cherche-t-on dans les détails, et d'autre part, des embûches qui sont de jouer avec intelligence, avec la lumière, et donc de développer des techniques d'observation extrêmement nouvelles. Cette quête des détails, Galilée fut le premier à la pratiquer en recherchant, par exemple, les taches du soleil. Je vous montre ici un dessin fait par Jean-Baptiste Cassini à la fin du XVIIe siècle et dans lequel il découvre ce qui s'appelle depuis dans les anneaux de Saturne la division de Cassini. Galilée avait pensé que la planète était triple, comme il l'a écrit dans un anagramme d'ailleurs, où il avait pensé avoir vu trois objets. Et cette quête du détail, avec les instruments de l'époque, a conduit à la découverte des anneaux de Saturne et de cette division de Cassini. Depuis trois siècles, cette quête ne s'est jamais arrêtée. Elle a conduit, par exemple, à affiner progressivement les images des galaxies, d'abord pour en distinguer les étoiles individuelles, et puis peu à peu, le mouvement de ces étoiles, les nuages de gaz qui les entourent, leurs interactions dans cette galaxie NGC 1252, dont l'image nous est donnée par le télescope européen VLT, Very Large Telescope, dont je reparlerai. Quête du détail, acharnement à faire parler la lumière, dont cette image du satellite SOHO, qui observe en ce moment même le Soleil, va nous donner une représentation très impressionnante. Vous voyez à la fois le Soleil étant caché par un masque, vous voyez à la fois l'éjection de matière par le Soleil, nous y reviendrons, mais aussi le mouvement d'une comète qui s'approche du Soleil, le contourne et dans ce cas ne tombe pas sur le Soleil. C'est donc à jouer avec la lumière et à chercher les détails des images que les astronomes vont s'employer. Pour cela, d'abord, il faut comprendre le jeu de la lumière, ce qu'elle supporte et ce qu'elle ne supporte pas, si j'ose dire. Nous avons, chacun d'entre nous, et même deux instruments d'optique extraordinairement performants qui sont nos yeux, qui forment des images sur notre rétine et qui contiennent en quelque sorte le résumé de tous les instruments astronomiques, quelle que soit leur taille. Un objet, ce sera l'étoile pour l'astronome, une lentille, le cristallin pour l'œil, un diaphragme, la pupille pour l'œil, de taille variable, il s'agrandit dans l'obscurité, réduit sa taille, et une couche sensible, la rétine, remplacée aujourd'hui dans les instruments astronomiques, on ne regarde plus à l'œil, par une caméra CCD, après avoir été un instrument photographique. L'ambition de l'astronome est donc de construire un instrument parfait. Et dans cette ambition, il va rencontrer trois séries de problèmes. Premièrement, il doit construire une surface parfaite qui, d'une source lumineuse très loin, à l'infini, disent les scientifiques, une étoile, donne une image qui soit parfaite, parfaitement ressemblante à l'objet. Une seule surface a cette propriété, le paraboloïde. Donc, le miroir de télescope devrait être un paraboloïde parfait. Curieusement, la nature nous offre un moyen de réaliser, on peut le faire chez soi à la limite, un paraboloïde parfait en faisant tourner simplement sur l'équivalent d'une platine de tourne-disque une surface de mercure, horizontale lorsque la platine est au repos. La surface prend en rotation la forme d'un paraboloïde. Et c'est maintenant une technique nouvelle, mais extraordinairement intéressante, car très bon marché, de fabriquer de grands miroirs de télescope. Ici, celui-ci fait 1,40 m, mais on en construit actuellement qui font 4 m, et rien n'interdit que les plus jeunes d'entre nous, dans quelques dizaines d'années, voient des miroirs de 50 ou 100 m construits sur ce principe. Mais il n'est pas toujours possible de fabriquer un tel miroir, notamment il n'est pas orientable, et dès que la forme du miroir n'est plus celle d'un paraboloïde, alors, au lieu de faire converger la lumière en un point, les aberrations du miroir conduisent, c'est-à-dire les défauts de forme, conduisent à une accumulation de lumière qui peut prendre des formes très étranges. Vous voyez ici, au lieu d'être en un point, eh bien, la lumière est répartie, naturellement, l'image de l'étoile va être mauvaise. Nous connaissons bien les aberrations, car bien souvent, nos yeux, l'âge venant d'autant plus, sont victimes de ces aberrations, myopie, astigmatisme, presbytie, sont des défauts de qualité de l'œil qui font que les images, au lieu d'être fines et nettes, sont floues. Lorsque la technique de polissage des grands miroirs astronomiques est au point, vous avez ici le miroir qui fait 8,20 m, qui est un des miroirs du grand télescope européen que je citais à l'instant, le VLT. La technique de polissage, ici faite dans une firme française aux environs de Paris, la société Reosc, conduit à ce que, du point de vue géométrique, les images soient parfaites. L'image d'un point sera un point. Néanmoins, ceci ne dit pas le tout de la lumière. En effet, un autre phénomène nous attend, une fois ce problème réglé, ce qu'on appelle la diffraction de la lumière. Imaginons une source qui est une étoile, un point lumineux, et nous allons essayer avec un système optique, une lentille, d'en faire l'image ici. Le système est parfait, toute la lumière va-t-elle s'accumuler en un point, et non pas dans la figure précédente, puisque j'ai corrigé les aberrations. Eh bien non. Vous voyez que si on coupe le faisceau à différentes étapes, eh bien jamais la lumière ne se rassemble en un point. Il y a un point, bien sûr, mais il est entouré d'anneaux. Ces anneaux sont des anneaux de diffraction qui sont dus à ce que la lumière est rétive à se concentrer dès qu'elle rencontre un bord. Ici, le bord de l'instrument d'optique. Mais ce pourrait être le bord d'une lame de rasoir, un petit trou. Tout ceci conduit immédiatement les faisceaux lumineux à s'étaler et à refuser la convergence parfaite qui conduira à ce que l'image d'un point soit un point. Cet effet est proportionnel à la longueur d'onde. Si j'utilise de la lumière rouge, eh bien, la taille des anneaux sera plus grande que si j'utilise de la lumière bleue. Et si j'utilise des rayons X de longueur d'onde encore beaucoup plus courte, la taille de l'anneau sera réduite à proportion de la longueur d'onde. C'est pour cela que les microscopes optiques, comme les télescopes, ont un pouvoir de qualité d'image d'autant meilleur que la longueur d'onde est plus courte. Un microscope à rayons X donnera des images plus résolvantes, verra des détails plus fins qu'un microscope optique. Et un microscope électronique, utilisant la longueur d'onde associée à l'onde de matière que possède l'électron, donnera des images encore meilleures que le microscope à rayons X. Donc ce phénomène de diffraction va perturber la qualité des images astronomiques. Et la taille des anneaux est d'autant plus petite, donc l'image d'autant plus proche de celle que nous recherchons, que l'ouverture est plus grande. Ainsi, avec l'augmentation du diamètre d'un télescope, peut-on espérer vaincre progressivement ce défaut en formant des images de taille de plus en plus petite. Pour illustrer encore ce phénomène de diffraction, vous avez ici l'ombre d'une vis de quincaillerie, et vous voyez que cette ombre, au lieu d'être nette, si on la regarde soigneusement, et regarder soigneusement est une caractéristique des scientifiques en général, eh bien vous voyez qu'elle est elle aussi bordée de franges d'interférences qui sont dues à ce refus de la lumière de se propager en ligne droite lorsqu'elle a rencontré un obstacle. Autre exemple encore, voici des trous percés dans une plaque, et l'ombre de ces trous, à nouveau, est bordée de ces figures de diffraction qui sont, je le répète, d'autant plus importante que la longueur d'onde de la lumière est plus grande. Deuxième obstacle donc, augmenter la taille des télescopes pour avoir des images de plus en plus fines. A-t-on résolu le problème? Eh bien non, car un troisième et dernier piège dans cette énumération rapide que je dois faire ce soir nous attend, celui de la présence de l'atmosphère de la Terre, pour tous les instruments au moins, qui sont placés à la surface du sol. Vous avez ici l'image donnée par un télescope d'une étoile double. Vous voyez que ces deux images sont étalées. Elles n'ont pas les beaux anneaux de diffraction que nous aimerions attendre. Et vous voyez de plus que si je les regarde au cours du temps, elles s'agitent. Ceci est un film de l'étoile double observé au travers le télescope sans accélérer l'image. Vous voyez cette agitation qui traduit une agitation atmosphérique que nous connaissons bien, celle qui affecte la scintillation des étoiles la nuit, ou encore celle que nous voyons lorsque de la lumière traverse, venant d'un paysage lointain, de l'air chauffé au-dessus d'une route ou d'un feu. Cette agitation des images est le grand ennemi de l'observation par les astronomes depuis la surface de la Terre. Et comme aller dans l'espace est coûteux, eh bien, il faudra trouver un moyen de contourner ce troisième obstacle pour peut-être, enfin, voir des images qui seront parfaites du point de vue des aberrations du télescope, le miroir a été bien construit, aussi bonnes que possible du point de vue de la diffraction de la lumière, on a pris un miroir aussi grand que possible, et enfin, aussi libéré, s'il en est possible, de cette agitation atmosphérique. Si on n'est pas capable de le faire, s'agissant de l'agitation atmosphérique, eh bien voilà le résultat. Voilà, un peu agrandi par rapport au cliché précédent, l'image d'une étoile, non plus double mais simple, telle qu'un grand télescope va la donner. Et voilà ce que serait l'image parfaite. En fait, je n'ai pas dessiné ici les deux ou trois anneaux de diffraction qui devraient s'y trouver. Vous voyez la perte considérable, peut-être un facteur 50 en taille d'image, et évidemment en concentration d'énergie, puisque tous les photons qui sont présents dans cette image, si elle était parfaite, s'il n'y avait pas l'atmosphère, se trouveraient tous concentrés dans ce point qui serait naturellement extrêmement brillant. Donc on voit bien ce qui est perdu. Les deux figures de gauche et de droite sont à l'échelle. Vous voyez que la taille de ces petits grains, que l'on appelle des tavelures, est à peu près, même exactement, la taille de l'image idéale que donnerait le système s'il était, par exemple, placé dans l'espace et libéré de la diffraction. Voilà donc posées les trois subtilités de la lumière avec lesquelles l'astronome doit composer. Avant de passer aux instruments qui utilisent et qui développent ces stratégies, laissez-moi positionner les échelles dont nous allons parler. Je ne vais pas parler en distance, mètres, kilomètres, années-lumière, je vais parler en angle. Car pour l'astronome, ce qui compte, c'est l'angle sous lequel un objet est vu. Un objet faisant 5 mètres et observé depuis un satellite orbitant la Terre à 1000 km est vu sous un angle de 1 seconde d'arc. Cette seconde d'arc, à peu près un 100 millième de radian, cette seconde d'arc va être une unité commode pour les astronomes. Par exemple, sur l'image qui est ici, elle est à peu près la taille de l'étalement atmosphérique. 5 mètres vus par un satellite à 1000 km. Mais si je mets le satellite en orbite géostationnaire, alors sous le même angle, il verra cette fois une longueur de 200 mètres. Et si, au lieu de le mettre à 36 000 km, je le mets sur la Lune, à 360 000 km, eh bien, le même angle d'une seconde sous-tendra maintenant 2 km, 10 fois plus. Et si je place l'objet à 10 parsecs, c'est-à-dire la distance des étoiles, en gros, les plus proches du Soleil, eh bien, le même angle d'une seconde ne sous-tendra plus ni 5 mètres, ni 200 mètres, ni 2 km, mais cette fois 10 unités astronomiques, c'est-à-dire 10 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil, 1 milliard 500 millions de kilomètres, pour la valeur 10 fois, et qu'on appelle l'unité astronomique. L'unité astronomique vaut 150 millions de kilomètres. Donc rappelons-nous que dans la quête de finesse, il s'agit de gagner sur un angle, et que cet angle se traduira en dimensions linéaires, en quelque sorte, qui varieront selon la distance de l'objet observé. Les outils de l'observation. Comment ces principes du comportement de la lumière vont-ils se traduire dans l'évolution et l'amélioration des outils? Je pourrais naturellement décliner, c'était le cas avant-hier déjà, la diversité des instruments d'observation sous bien des angles, leur capacité de l'analyse spectrale de la lumière ou leur capacité de sensibilité pour détecter des lumières extrêmement faibles. Je choisis ici de les décliner sous l'angle particulier, mais extrêmement intéressant, de leur capacité à discerner la finesse des images, de leur capacité de nous accompagner dans cette quête du détail. Première stratégie, augmenter le diamètre pour avoir ces anneaux de diffraction le plus petit possible. Dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences en 1868, se trouve une correspondance entre Hippolyte Fizeau et M. Stéphan sur la possibilité de mesurer le diamètre des étoiles en utilisant une technique d'interférence. Et j'attire votre attention sur la dernière phrase qui est prophétique, car elle va inspirer un siècle et demi de travaux, et elle n'a pas fini de les inspirer. Il est peut-être permis d'espérer qu'en s'appuyant sur ce principe d'interférence et en formant par exemple, au moyen de deux larges fentes très écartées, des franges d'interférence au foyer des grands instruments destinés à observer les étoiles, il deviendra possible d'obtenir quelques données nouvelles sur les diamètres angulaires de ces astres. Autrement dit, les étoiles, qui dans les livres pour les enfants et parfois pour les parents sont présentées comme des points sans dimension, sont naturellement des objets qui ont une dimension, mais si petite qu'elle paraissait impossible à mesurer. La proposition de Fizeau consiste essentiellement à dire « Si vous augmentez le diamètre du télescope suffisamment, vous finirez par résoudre le diamètre de la tache d'une étoile et voir la surface d'une étoile, mesurer son diamètre et voir sa taille. » L'enjeu a été pris tout à fait au sérieux par le grand physicien américain Albert Michelson, et vous avez ici la poutre qu'il a montée pour augmenter artificiellement le diamètre du télescope, le miroir primaire est quelque part par ici, de 2,50 m situé à l'observatoire du mont Wilson. Et il a placé des petits miroirs à l'extrémité ici, ceci lui permettait d'augmenter le diamètre du télescope artificiellement, et en faisant réfléchir la lumière à l'aide de miroirs pour un faisceau, l'autre faisceau ici, et puis ensuite la lumière venait sur le miroir secondaire du télescope, puis au foyer, il observait effectivement des franges d'interférence. Il a été le premier à mesurer le diamètre d'un certain nombre d'étoiles les plus brillantes. Cette technique a été reprise plus de 50 ans plus tard, 55 ans, par Antoine Labéry, le Français Antoine Labéry, opticien de très grand talent, qui a installé deux petits télescopes, ici, vous voyez cette fois-ci, séparés l'un de l'autre, et non plus avec ce montage de poutre un peu branlant de Michelson. Et il a obtenu effectivement les franges d'interférence que vous voyez ici sur une image de Vega. Naturellement, à cause de l'effet atmosphérique que j'évoquais à l'instant, ces franges s'agitent constamment, mais on peut les saisir à l'œil, et depuis on a appris à les photographier, les mesurer avec plus de précision. Donc ce fut une étape tout à fait capitale, et en quelques années, moins de 20 ans, on est passé de ce premier interféromètre de la Berry à la construction du très grand télescope européen, le VLT, que j'évoquais tout à l'heure, et qui comprend 4 télescopes de 8,20 m, ainsi que 3, 4, peut-être 5 plus petits télescopes qui, eux, sont mobiles, et il est possible, ce sera le premier instrument au monde à faire ça à cette échelle, non seulement d'observer individuellement une étoile à l'aide de l'un quelconque de ces 4 télescopes, ou même d'observer la même avec les 4, mais aussi, observant la même avec les 4, de recombiner la lumière à la manière de Michelson et de Fizeau, en faisant cheminer la lumière depuis chacun de ces télescopes jusqu'à un endroit qui se trouve dans ce tunnel, dans une salle souterraine, où on recombine, comme Michelson le faisait, comme la Berry le faisait et comme Fizeau l'avait proposé, où on recombine la lumière venant de ces 4 télescopes, augmentant ainsi la taille effective de l'instrument et réduisant d'autant la figure de diffraction qui limitait la finesse de l'image observée. Et c'est ainsi que l'on a l'équivalent d'un télescope qui, dans ce cas, aurait la taille de la distance maximale entre ces grandes machines, c'est-à-dire environ 120 mètres. Naturellement, on n'a pas, dans chacun des miroirs, la capacité collectrice de lumière d'un seul miroir de 120 mètres, qui est encore irréalisable, mais on a la résolution, on a la finesse. Eh bien, le but, faire ce que Fizeau avait proposé, c'est-à-dire faire l'image d'une étoile. Voilà la constellation d'Orion, que nous connaissons tous, et dans cette constellation d'Orion, il y a une étoile qui est une étoile très brillante, très rouge, qui s'appelle Bételgeuse, qui est une supergéante, et voilà l'image de Bételgeuse qui a été obtenue par le télescope spatial Hubble, que chacun connaît, et dont le diamètre du miroir est 2,40 m. C'est très limité, mais parce que cette étoile est une supergéante, son diamètre ici et l'atmosphère qui l'entoure est tout juste résolvable par le télescope Hubble. Naturellement, il ne faut pas espérer plus de finesse, donc voir des détails à la surface de cette étoile. Pour cela, on placera deux miroirs à grande distance l'un de l'autre et on fera de l'interférométrie. L'interprétation d'une image interférométrique est difficile. Une image interférométrique faite avec deux miroirs séparés n'est pas aussi parlante à l'imagination, n'est pas aussi explicite qu'une image habituelle. Et vous devez accepter le fait que dans ce schéma, eh bien, il s'agit toujours de Bételgeuse, cette courbe représente le pourcentage de modulation des franges d'interférence obtenues. 0% de modulation veut dire qu'il n'y a plus de franges, on n'obtient qu'un éclairement uniforme. 100% veut dire au contraire que entre deux franges brillantes, eh bien, il y a une extinction totale de la lumière. La courbe qui est ici est la courbe théorique que donnerait une étoile d'un certain diamètre, et ce diamètre a été ajusté pour passer par les points de mesure. Et vous voyez, comme l'ajustement est bon, les points de mesure sont exactement, on en déduit donc une mesure du diamètre extrêmement précise de cette étoile, 42 millisecondes d'angle. Et vous voyez ici le point qui est donné pour la séparation, plus grande que celle de Michelson, pas encore aussi grande que celle du VLT, qui ne sera opérationnelle que cet automne, le point qui est donné pour une base de 30 mètres, c'est-à-dire beaucoup plus que le diamètre des télescopes individuels qui ne font ici, parce que Bételgeuse est brillante, que quelques centimètres. Vous voyez qu'il s'agit là d'une traduction qui est moins simple que la traduction immédiate d'une image avec un beau dessin de la surface, comme on le voyait dans la photographie du HST, mais qui contient énormément d'informations scientifiques. Cette technique de l'interférométrie optique peut s'étendre d'ailleurs à différentes longueurs d'onde, et je vous montre quelques perspectives d'instruments qui, dans les années à venir, vont s'appuyer sur cette technique. Vous avez ici la photographie du site astronomique probablement l'un des meilleurs du monde, sinon le meilleur, à 4200 mètres d'altitude, au sommet du volcan éteint, naturellement, du Mauna Kea, dans l'île, la grande île d'Hawaï, un rassemblement de télescopes, dont en particulier le télescope Canada-France-Hawaï, donc, qui est ici. Vous en voyez d'autres, vous voyez en particulier les deux géants de 10 mètres du Keck, et puis ici le télescope japonais Subaru et quelques autres, et le projet qui est en cours de réalisation est de faire interférer la lumière de tous ces télescopes en observant qu'ici on a une séparation de 800 mètres. Vous voyez qu'on aura, pour les mêmes raisons que j'ai dit précédemment, l'équivalent d'un miroir de 800 mètres de diamètre dans cette direction, un petit peu moins dans la direction perpendiculaire. Donc la capacité de chercher un ordre de grandeur de plus de la finesse des images que précédemment. Cette technique d'observation, naturellement, n'a aucune raison d'être limitée aux longueurs d'onde de la lumière visible ou infrarouge, qui sont celles auxquelles travaillent ces télescopes. On peut l'appliquer aux longueurs d'onde des radiofréquences. Par exemple, ici, aux longueurs d'onde proches du millimètre, vous avez le dessin d'un interféromètre, c'est ainsi qu'on désigne ces machines, fonctionnant aux longueurs d'onde proches du millimètre, qui sont un peu plus petites que les longueurs d'onde des ondes radio qui transportent le signal que nous connaissons bien de la modulation de fréquence, et qui sera installé avec un réseau, cette fois, de 64 télescopes, on les appelle alors antennes, volontiers, de diamètre 12 mètres, sur un plateau dans l'altiplano chilien à 5100 mètres d'altitude. Et ici, vous voyez que la base atteint 10 km au carré. C'est donc une machine extrêmement puissante, mais cette règle de la diffraction de la lumière fait que le degré de finesse qu'atteint cet interféromètre à 1 mm de longueur d'onde et 10 km de base est exactement le même qu'un autre interféromètre, comme le VLT, fonctionnant à 1 micromètre de longueur d'onde 1000 fois plus courte, et avec une base 1000 fois plus petite, donc 10 mètres par 10 mètres. On peut, dans l'autre extrême, si l'on cherche à agrandir la base au-delà des dimensions des plateaux chiliens et même de la surface terrestre, faire, et ceci se pratique en radioastronomie, aux longueurs d'onde centimétriques cette fois, donc 10 fois ou 100 fois plus grande que la précédente, en mettant un des télescopes dans l'espace. Et vous avez ici un dessin d'un instrument qui fonctionne actuellement, qui comprend plusieurs antennes situées à la surface de la Terre, observant toutes dans la même direction, plus une en orbite autour de la Terre, et qui permet d'étendre la base à peu près d'un facteur 10, vous voyez, pardon, à peu près d'un facteur 3, hein, la séparation ici est à peu près 3 fois le diamètre de la Terre. On a donc gagné en finesse un facteur 3. Enfin, plus tard, on envisage des flottilles de télescopes dans l'espace. Ceci est un dessin d'artiste cette fois, où 5, 6 ou 7 télescopes observent tous la même étoile et recombinent leur lumière au centre ici, toujours sur le même principe. C'est la mission Darwin, en préparation à l'Agence spatiale européenne, et qui s'intéresse aux exoplanètes, dont je parlerai dans un moment. Voilà donc pour la première stratégie de lutte pour la finesse, à savoir augmenter le diamètre de télescope pour vaincre cet effet de la diffraction de la lumière, qui n'aime pas, je le répète, les obstacles. Deuxième stratégie, lutter contre l'agitation des images et leur étalement par l'atmosphère de la Terre. Ceci paraissait, depuis Galilée pratiquement, en tout cas depuis Cassini quand il dessinait les anneaux de Saturne, un obstacle insurmontable aux astronomes. Et le seul remède à cet obstacle de l'étalement atmosphérique des images paraissait bien ne pouvoir être que le positionnement des télescopes dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère de la Terre. Et puis, il s'est avéré qu'il était possible de lutter contre cet étalement depuis la surface de la Terre. Résumons la question. Vous avez ici l'image étalée par l'atmosphère que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez ici, de la même manière, l'étoile double dont nous voyons l'agitation avec son évolution temporelle. Et vous avez ici ce que ce système de correction, sur le détail duquel je vais revenir, produit. Vous voyez que l'image contient maintenant presque pas encore parfait, parce que le système n'est jamais parfait, mais elle contient l'anneau, le premier anneau et peut-être même, discerne-t-on, le second. Et la taille de l'image est maintenant celle qui figurait à droite de ce cliché, un point pratiquement parfait. On a retrouvé la diffraction et comme annulé l'effet de l'atmosphère de la Terre. Nous pouvons d'ailleurs animer cette image et voir comment cet effet d'agitation des images la perturbe. Vous voyez ici qu'il reste un petit mouvement, je le répète, le système n'est pas parfait, mais on le perfectionne tous les jours, et ce petit mouvement n'empêche pas que 90% ou 75% de l'énergie reste dans la partie centrale. C'est comme un petit miracle, mais ça fonctionne. Et ceci, naturellement, transforme complètement l'observation astronomique. À gauche, voici une image du centre de notre galaxie, faite par Daniel Rouen, d'ailleurs, que vous entendiez avant-hier, sans optique adaptative, avec un grand télescope, 3,60 m, le télescope Canada-France-Hawaï. Et vous voyez combien les images d'étoiles sont floues et étalées. Nous ne voyons pas le piquetage fin des images, simplement parce que ce sont des poses longues et que l'accumulation du mouvement donne une figure moyenne qui est étalée. Et vous voyez ici la correction qui a restitué la qualité du champ. Et si vous regardez attentivement, autour maintenant de chaque étoile, les petites surgissent alors qu'elles étaient invisibles à gauche, c'est le résultat de la concentration d'énergie dont je parlais, vous voyez les anneaux dus à la diffraction. Si maintenant on augmentait la taille du télescope, 3,60 m à 8,20 m le VLT, à 10 m le Keck, à 30 m, voire 50 m les télescopes des prochaines décennies, eh bien on verrait la taille de ces anneaux se réduire, la taille de cette tâche se réduire, et donc la quête de la finesse se poursuivre. Comment marche cette technique un peu miraculeuse? Eh bien, vous avez ici une onde lumineuse, on a représenté le front d'onde, le rayon lumineux serait donc perpendiculaire ici, qui va être réfléchi sur un miroir, et ce miroir va compenser très exactement les défauts de ce front d'onde. Lorsque le front d'onde est en avance, le miroir va reculer pour introduire un retard. Lorsqu'au contraire le front d'onde est en retard, comme ici, à cause d'un chemin plus long dans l'atmosphère, eh bien, le miroir va s'avancer pour compenser d'autant le défaut. Si bien que l'onde réfléchie va être redevenue parfaitement plane. Et évidemment, tout ceci dépend du temps. Donc vous voyez ici l'onde qui se propage. Évidemment, le temps a été considérablement raccourci puisque cette onde se propage à la vitesse de la lumière. Vous voyez l'onde se propager et vous voyez que sa correction est faite en temps réel par ce miroir. La vitesse d'agitation de ces défauts ici étant celle que nous voyons quelques dizaines d'agitations par seconde. Voilà donc. Ensuite, il s'agit de construire un instrument dont la technologie permette la mesure de la déformation ici, la correction du miroir et la vérification que l'image est correcte. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez ici une surface qui sépare l'onde en deux. Une partie de l'onde va aller vers le dispositif de mesure qui lui-même va informer le miroir et une autre partie de l'onde va aller vers la caméra qui, elle, forme l'image parfaite. Donc voici un exemple. Il s'agit d'une comparaison entre d'une part une image d'un satellite de Jupiter particulièrement intéressant, un satellite galiléen ou médicéen comme on les appelle, un de ces quatre satellites que l'on voit parfaitement avec une petite paire de jumelles qui s'appelle Io et dont la surface est criblée de volcans. Et voici une image de la surface de Io faite avec une sonde spatiale Galileo qui est actuellement en orbite autour de Jupiter. Et voici la même image faite depuis le Keck télescope d'Hawaï, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui fait 10 mètres de diamètre. Voilà une image faite à bout portant. Ce satellite, cette sonde qui photographie Jupiter, est en orbite autour de Jupiter. Nous sommes à 5 unités astronomiques de Jupiter. Et néanmoins, vous voyez que non seulement les détails des volcans sont présents, mais encore qu'une éruption peut être observée et même qu'elle peut être suivie. Vous voyez ici l'éruption, heure par heure, modifiée. Et pour raccrocher cette image aux échelles angulaires que je donnais tout à l'heure, vous avez ici une seconde d'angle, qui est évidemment un angle extrêmement petit, hein, je le répète, 5 mètres vu à 1000 km. Les grands télescopes en construction au sol, et puis fortiori ceux qui seront construits à l'avenir, sont tous équipés de ces outils miracles pour lutter contre les turbulences de l'atmosphère de la Terre. Il n'empêche que les astronomes continuent à souhaiter mettre des instruments dans l'espace. Nous connaissons tous le télescope Hubble, et voici son successeur qui sera lancé à la fin de notre décennie, vers 2008 ou 2009. Il s'appelle le Next Generation Space Telescope. Il n'a pas encore été dédié à un astronome particulier. On peut toujours prendre des paris ou faire des suggestions. Et il est tellement grand, probablement 8 mètres de diamètre, si les dollars sont au rendez-vous, l'Europe y participe, qu'il doit être déplié dans l'espace. Vous avez ici son déploiement. Le télescope va être embarqué avec des panneaux solaires et protégé de la lumière du soleil qui est dans cette direction, donc il reçoit la lumière solaire sur ces panneaux solaires. Il est protégé et il est placé dans l'ombre. Vous voyez ici le déploiement de son miroir principal, donc j'ai dit environ 8 mètres de diamètre, ce sont des pétales qui s'ouvrent, son miroir secondaire qui s'installe ici, et le télescope tourne autour du soleil en un point assez éloigné de la Terre de façon à ce que cette direction reste toujours pointée vers le soleil, lui assurant à la fois l'énergie et la protection de la lumière qui lui permet d'être dans l'obscurité et donc d'observer les étoiles en toute quiétude. Ici, bien sûr, plus de perturbations dues à l'atmosphère de la Terre. Alors, cette quête de la finesse, avec des surfaces de télescopes parfaites ou presque, avec des tailles de télescopes croissantes, et quand on ne peut plus faire des miroirs plus grands que 10 ou 20 mètres, des interféromètres de taille croissante, avec enfin cette correction des effets de l'atmosphère de la Terre, à quoi servent-elles ? Eh bien, à rechercher des finesses extrêmes. Et je voudrais développer trois applications, brièvement pour les deux premières, plus en détail pour la suivante. Trois applications de ces finesses extrêmes. La première, l'observation du Soleil. Le Soleil est relativement facile à observer, néanmoins, l'observation de la finesse nous révèle des choses tout à fait extraordinaires. Vous avez ici une image de la surface du Soleil faite par le satellite SOHO, qui est également en orbite, et je ne saurais que trop recommander d'aller voir ces images en temps réel, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui ou celle de demain, sur Internet, vous voyez que à la fois la rotation du Soleil et l'éjection de matière par l'activité solaire est extrêmement spectaculaire. Voilà une autre image du Soleil, où là aussi le Soleil, cette fois, a été caché, le disque du Soleil est caché par un disque pour que l'environnement lointain, la couronne du Soleil, que nous voyons bien pendant les éclipses totales, puisse être visible, et vous allez voir l'activité de la couronne, la date et l'heure sont indiquées. Vous voyez l'activité de la couronne, l'éjection de matière en quelques heures, le changement de l'aspect de la couronne solaire, observer la finesse des détails de cette couronne et le passage de la planète Mercure sous le Soleil que vous voyez passer au fil du temps. Évidemment, elle défile très rapidement. Donc, sur le Soleil, observer des détails très fins n'est pas extrêmement difficile. C'est une autre paire de manches que de l'observer sur une étoile. Et voici également une éjection de matière, mais cette fois par une étoile qu'on appelle étoile de Wolf-Rayet, caractérisée par cette activité. Et cette éjection de matière accompagne le mouvement de rotation de l'étoile. Cette étoile, comme pratiquement toutes les étoiles, tourne sur elle-même à des vitesses plus ou moins grandes, 27 jours pour le Soleil, plus rapide pour certaines étoiles, moins pour d'autres. Et vous voyez ici les éjectats de matière de cette étoile au cours du temps. Cette image a été obtenue à l'aide des techniques d'optique adaptative dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez ce caractère extrêmement spectaculaire. On a exactement ici, mais à l'échelle d'une étoile, dont on ne voit pas la surface, finesse insuffisante, le phénomène que nous connaissons, qui nous fait ressembler d'ailleurs à ces soleils de feux d'artifice. Ambition de faire l'image fine de la surface des étoiles, et puis ambition de rechercher les planètes, et c'est sur cette recherche des planètes que je voudrais passer les 15 minutes qui me restent. Car la recherche des planètes met en jeu la stratégie la plus pointue actuellement dans la quête de la finesse. L'idée qu'il existe d'autres mondes, peut-être, est une idée ancienne. Ce texte de Démocrite que je vous lis, certains mondes n'ont ni soleil ni lune, pour d'autres ils sont plus grands que dans le nôtre, pour d'autres encore plus nombreux. En certains endroits il y a davantage de mondes, il entendait planètes habitables. En certains endroits il y a davantage de mondes, en d'autres moins, là ils émergent, ici ils sont en décadence, certains sont privés de créatures vivantes, de plantes ou de toute humidité. Vous voyez que dans la réflexion du philosophe grec, progressait cette hypothèse de la pluralité des mondes, reprise par Fontenelle beaucoup plus tard, et qui a hanté la réflexion philosophique, scientifique, mais aussi la science-fiction et la réflexion tout court de l'humanité depuis 25 siècles, sinon davantage. Eh bien, en 1995, une réponse scientifique a été apportée à la question, tout au moins à la première étape de la question, à savoir, existe-t-il d'autres systèmes planétaires semblables aux nôtres ? Depuis 1995, une soixantaine d'étoiles proches de nous, dans la sphère de quelques dizaines de parsecs autour de notre Soleil, ont été observées. Vous en avez ici une liste partielle. Chaque étoile ici est accompagnée de la position de sa planète et l'échelle est celle de la distance entre le Soleil et la Terre. Jupiter serait à 5 unités astronomiques, donc très loin sur la droite, et ici, chacune des planètes porte une petite étiquette qui est sa masse. En unité de masse de la planète la plus massive du système solaire, Jupiter, 1 millième de la masse du Soleil. Donc une planète qui a ici 1,3 fois la masse de Jupiter a donc un peu moins du millième de la masse du Soleil. Un peu plus du millième de la masse du Soleil. Vous voyez en particulier qu'une de ces étoiles, l'étoile Upsilon Andromède, a elle trois planètes, une extrêmement proche du Soleil, de son Soleil, de cette étoile, une pratiquement à la distance de la Terre, mais évidemment beaucoup plus massive que la Terre. La masse de la Terre est le 320e de la masse de Jupiter, donc le 300 millième de la masse du Soleil, et une autre qui est assez loin, à peu près comme l'orbite de Mars. Donc cette planète, cette étoile, a un système planétaire et vous remarquez que sur ce cliché, il n'y a pas d'objet de masse comparable à la Terre. La raison en est que les techniques d'observation n'ont pas la capacité suffisante actuellement pour détecter de tels objets. Elles l'auront prochainement. Remarquons aussi que ces observations, qui sont révolutionnaires et dont j'ai tenté de décliner l'impact dans le petit texte que vous trouverez dans le supplément du Monde qui, je crois, est distribué à la sortie ou à l'entrée, ces planètes représentent un pas gigantesque dans la réponse à la question posée, mais seulement un premier pas, et la technique de détection indirecte qui est utilisée ici ne nous dit rien sur leur composition, sur leur atmosphère. Elle nous dit simplement qu'elles sont présentes, je ne détaille pas la technique, elle ne nous en donne pas d'image, et a fortiori d'image avec des détails. Néanmoins, une autre technique a pu être utilisée pour une d'entre elles, peut-être deux, et bientôt plusieurs dizaines. Il s'agit de profiter du cas rare, mais qui dans la liste précédente se produit au moins une fois, où la planète passe devant l'étoile, ce que les astronomes appellent un transit. Vous savez que les planètes orbitent, comme dans le système solaire, dans un plan autour de l'étoile. Il se peut que ce plan contienne la direction qui relie l'étoile à l'observateur terrestre. Dans ce cas, à chaque tour, la planète passera devant l'étoile. Beaucoup plus petite, elle ne produit donc pas une éclipse, mais ce que nous appelons un transit. La conséquence en est une baisse de la luminosité de l'étoile. Eh bien, nous allons voir avec les véritables données obtenues sur cette étoile, dont le numéro figure en bas, nous allons voir le tracé de la lumière de l'étoile. Voilà. Vous voyez que la variation est petite. Je répète la séquence. Au passage de la planète, la lumière de l'étoile baisse et elle revient ensuite. Et vous voyez ici l'échelle qui donne les variations. Il s'agit de 2%, ce qui est tout à fait mesurable et ce qui est mesuré ici. Encore une fois, c'est un cas chanceux, puisqu'ici, la planète est passée devant l'étoile. Si nous avons un échantillon très important, et nous l'aurons, puisque les statistiques déjà possibles sur ces quelques dizaines d'étoiles accompagnées de planètes nous montrent qu'environ 3 à 5% des étoiles de type solaire, qui sont abondantes dans notre galaxie, sont dotées de planètes. Et dans ce pourcentage, eh bien, au hasard, un certain nombre auront leur plan orbital dirigé de telle manière qu'une telle occultation puisse être observée. Et en observant des dizaines de milliers d'étoiles, ce que projettent de faire au moins 3 projets de télescopes en orbite autour de la Terre, et actuellement en préparation, distincts par la spécificité de leur mission du grand télescope NGST que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, ces 3 instruments nous permettront de découvrir plusieurs dizaines, plusieurs centaines peut-être, de tels objets. Et le point important est de noter que même une planète dont la dimension serait petite, à peu près la taille du point lumineux rouge que je fais passer ici, qui serait la dimension de la Terre, beaucoup plus petite que le Jupiter qui passait précédemment, donnerait une variation de lumière bien plus faible, naturellement, mais dans l'espace, une telle variation est mesurable. C'est une des seules méthodes aujourd'hui opérationnelles pour détecter la présence d'objets de taille aussi petite que la Terre autour d'autres étoiles que la nôtre. Alors, regardons maintenant, à partir de tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, revenons un petit peu sur les échelles. La seconde d'angle, finesse assez grossière, finalement, est l'étalement des images que nous donne l'atmosphère de la Terre. Nous voudrions aller 1000 fois mieux à la milliseconde d'angle, voire 1 million de fois mieux à la microseconde d'angle. Pourquoi ? Eh bien parce que si nous voulons séparer une planète de son étoile, en supposant par exemple qu'elle est à une unité astronomique de l'étoile, c'est-à-dire la distance qui sépare la Terre du Soleil, alors pour une étoile située à 10 parsecs, ce qui est à peu près la distance des quelques centaines d'étoiles brillantes que nous voyons la nuit, eh bien, il nous faudrait résoudre 10 fois mieux que la limite de l'atmosphère. Et si nous voulions aller encore 10 fois plus loin, 100 fois mieux que la limite de l'atmosphère, et ceci, c'est à peu près ce que la diffraction autorise pour un télescope de 10 mètres de diamètre, tel le Keck. Un interféromètre, au contraire, de 100 mètres de base, nous autoriserait 10 fois mieux. Et vous voyez qu'alors, le tracé des orbites de ces planètes et la séparation de la planète de l'étoile deviennent faciles. Mais nous pouvons avoir des ambitions plus grandes. Nous pourrions souhaiter faire l'image de la planète. Alors voilà la taille de Jupiter si nous le plaçons à cette distance-là, 10 parsecs, autour d'une étoile raisonnablement proche, comme un certain nombre de Jupiters ont été découverts déjà. Et voilà la taille de la Terre, beaucoup plus petite, placée à la même distance. Et vous voyez qu'alors, pour faire ces images, il nous faudrait une capacité de finesse, une résolution qui serait donnée par un télescope de 100 km de diamètre. Pas question de le construire, cela veut dire un interféromètre de 100 km de base. Ceci est tout à fait possible dans l'espace. Alors, on pourra imaginer de faire l'image de la planète. Où chercher ces planètes ? Eh bien, deux mots sur le processus bien connu aujourd'hui par lequel on arrive de l'agrégat de poussière et de gaz d'hydrogène que représente un nuage interstellaire à la formation d'une étoile entourée de son cortège planétaire. Vous avez ici les phases successives. La gravitation fait tomber la matière sur la partie centrale qui s'échauffe et qui, en quelques dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire très rapidement, va atteindre une température comparable à la température ambiante et faire une grosse boule qui va être beaucoup plus grande, vous voyez, 10 000 unités astronomiques, donc, que le système final. Et puis progressivement, cette boule va s'effondrer en disque. Cet effondrement va être plus long, 1 million d'années, et va conduire à un disque beaucoup plus grand que le système solaire, vous voyez, jusqu'à 1000 unités astronomiques. Et ce disque va continuer à accréter de la matière par les bords du disque et en éjecter par le centre, dans la direction perpendiculaire. Et puis progressivement, la matière va trouver un nouvel équilibre où dans ce disque final, eh bien, les planètes se forment progressivement en grossissant aux dépens du disque et en laissant d'ailleurs dans le disque, c'est ce que disent en tout cas les simulations numériques, car ceci n'a pas encore été observé, des sillons qui pourront traduire pour l'observateur la présence de planètes, à condition naturellement qu'il dispose d'instruments capables de cette finesse. Et puis finalement, cette poussière, ce gaz qui forme les résidus du disque et qui est encore à peine présent dans notre système solaire, nous l'observons sous le nom de lumière zodiacale, mais vous ne le voyez qu'à peine la nuit ou toutes les conditions tellement il est ténu, eh bien, le disque dissipé, il reste l'étoile et ses planètes. Et c'est naturellement cette phase-là qui est celle que nous connaissons dans le système solaire. Il est même certain que toutes les autres phases seront observables. De fait, je vais vous montrer quelques images de disques de ce type qui sont déjà observables avec la finesse des images possibles. Vous avez ici dans Orion un grand nuage qui contient de la poussière et du gaz, donc tout à fait typique, et puis des disques qui se sont formés, vous voyez, on en voit 4 ou 5, sous des angles différents. Ces angles d'ailleurs sont les progéniteurs du plan orbital dans lequel la planète où les planètes orbiteront. Vous voyez, certains disques sont vus de face, certains de trois quarts, etc., d'autres par la tranche. Et si on les regarde avec plus de finesse, donc avec des instruments plus performants, eh bien, on constate ici un disque vu par la tranche, et vous voyez l'éjection de matière perpendiculaire. Ce disque est loin d'être encore au stade où il va former des planètes. Vous en avez ici un autre qui a formé une étoile double. Beaucoup d'étoiles se forment doubles. Et puis ici, on a une grande zone vide de poussière où peut-être des planètes se sont formées. Ces objets-là ne sont pas encore étudiés suffisamment. Mais si vous regardez l'échelle, vous voyez 2 secondes d'angle, on retrouve donc les angles évoqués tout à l'heure, et 280 unités astronomiques. La distance du Soleil à Jupiter, c'est 5 unités astronomiques. On est bien dans les échelles de taille des systèmes planétaires. Une des difficultés pour distinguer étoile de la planète, c'est le résidu de brillance de l'étoile qui est ici caché par un disque. Et voilà, non pas une planète, mais une étoile très peu brillante, dont je n'ai pas le temps de parler en détail, qu'on appelle une naine brune. Et il y a un écart de brillance entre ces deux objets qui est de plusieurs dizaines de milliers. L'écart de brillance entre une planète et son étoile, dans les mêmes conditions d'observation, serait de plusieurs millions ou centaines de millions. Donc il faudrait discerner une lumière extraordinairement faible. Vous voyez qu'on est fortement gêné par les résidus, malgré la correction adaptative, les résidus de lumière que cette maudite diffraction, accompagnée de l'effet de l'atmosphère, jette autour du point lumineux où on aimerait voir se concentrer la totalité de la lumière de l'étoile. Alors ici, la naine brune est suffisamment brillante pour sortir avec de manière tout à fait nette. C'est le cliché de découverte de cette naine brune. On en a trouvé plusieurs autres depuis. Mais pour une planète, c'est une autre paire de manches. D'où l'idée d'aller dans l'espace. Et le NGST, que je présentais tout à l'heure, lui serait capable, puisqu'il s'agit ici d'une simulation numérique à partir des performances de cet instrument, de distinguer très clairement un Jupiter à quelques unités astronomiques, vous voyez 5 unités astronomiques ici, entre l'étoile et Jupiter, autour d'une étoile suspectée d'avoir une planète et qui sera naturellement observée en priorité, à moins qu'elle soit mieux analysée d'ici là, par ce télescope. Vous voyez que cette étoile est à 2 parsecs et demi de la Terre, c'est-à-dire bien les ordres de grandeur que je discutais. Les questions auxquelles on veut répondre grâce à la finesse des clichés sur ces planètes sont innombrables. J'en ai listé quelques-unes ici, peut-être la discussion nous permettra de les évoquer. Vous trouvez dans ces questions, bien sûr, des questions de physique, des questions de chimie, des questions de géographie, les continents, les océans de ces planètes. Vous trouvez des questions de géophysique, les nuages, les volcans. Et vous trouvez évidemment des questions liées à l'interrogation du vivant, de la végétation. Et ces questions pourraient se traduire par deux observations tout à fait spécifiques. L'une d'entre elles, c'est l'observation du spectre de la planète, avec la recherche de ce qui caractérise, dans une comparaison dans le système solaire, la Terre, c'est-à-dire la présence de ce fameux ozone dans la stratosphère de la Terre, qui est très précisément lié à la présence de vie. Et puis, naturellement, l'ambition, pour répondre à certaines de cette question, d'une finesse extrême. Je dis extrême puisque je montrais à l'instant qu'il faudrait un instrument, un interféromètre, que l'on saura construire, d'environ 100 km de base, placé dans l'espace, pour faire une cartographie de cette planète. Ici, c'est une image simulée de la Terre vue à 10 parsecs, la distance dont nous parlions tout à l'heure, observée par un tel interféromètre. Vous voyez que l'Amérique du Sud est tout à fait visible, les nuages, les océans et même la tache verte de l'Amazonie ici. Donc, je suis certain que ces images seront observées d'ici 20 à 30 ans et révéleront sans doute beaucoup des choses attendues, mais aussi beaucoup de choses inattendues. Ainsi, dans sa quête de la finesse, je crois pour conclure que l'astronome met en œuvre cette parole très belle de Baudelaire qui me paraît très bien définir son activité. Pour leurs images, finalement, les peintres et les astronomes partagent le désir du détail. Tel Vermeer, qui parfois n'utilisait qu'un poil du pinceau dans sa quête de finesse, l'astronome construit des outils qui traquent la lumière et qui la font parler. Ainsi, nous pouvons regarder une image astronomique un peu comme nous regardons le tableau d'un peintre, avec une grande diversité de points de vue. Point de vue informatif. Quel objet, connu ou mystérieux, décrit donc cette image? Point de vue scientifique. Quelles quantités sont cachées dans cette image et sa finesse? Température, mouvements et vitesses, composition, atmosphère, etc. La finesse plus grande, est alors quasiment toujours synonyme d'abondance, de surabondance d'informations, de mesures et de capacité de construire des modèles scientifiques. Point de vue onirique, quel rêve, quelle question suggère donc cette image? Nous rebondissons sur elle, nous voulons en savoir davantage, nous ne cessons de solliciter qui le peintre et qui l'instrument d'observation. Point de vue esthétique, ces images, vous en avez vu quelques-unes, sont de la beauté pure, formes et couleurs de la nature, inouïes et qu'aucun peintre même talentueux ne saurait imaginer. Et puis finalement, point de vue symbolique, de quel invisible, à jamais caché et pourtant si présent, nous parle-t-on ces images de la nature sensible? Vers quelle quête scientifique, vers quelle quête métaphysique, vers quelle quête spirituelle peut-être, la quête de la finesse nous emmène-t-elle? Je vous remercie.
Monsieur, oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'extrême clarté de votre exposé. Je suis surpris que parmi les causes qui vont s'opposer à une extrême finesse, vous n'ayez pas mentionné la longueur des temps de pose photographique. Car j'imagine qu'à la quête d'objets de plus en plus lointains, vous allez devoir actionner des appareils pendant des temps de pose très longs pour capter une énergie de plus en plus faible, et Pouvez-vous nous donner une idée de ce que sont les temps de pause en ordre de grandeur en astronomie? Et si ces temps de pause, comme je l'imagine, sont parfois très longs, comment s'y prend-on pour obtenir une stabilité donnant une finesse pareille à de si faibles fractions de secondes d'arc pendant des temps de pause prolongés?
Merci de votre question. Quand on construit un instrument, on ne voudrait pas que l'agitation de l'instrument, incapable de suivre avec précision la rotation de la Terre, ou dans l'espace trop sensible à des perturbations comme des micrométéorites, viennent perturber la finesse, comme vous l'avez très justement énoncé. On va donc demander aux ingénieurs qui construisent l'instrument de garantir que le pointage de l'instrument serait-il perturbé par des événements extérieurs, le vent pour un télescope au sol, des micrométéorites dans l'espace, permettent des temps de pause longs qui ne dégradent pas ces facteurs plus fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le cas de l'observation depuis la surface de la Terre, et tant que l'optique adaptative n'était pas présente, les exigences n'étaient pas très grandes, car vous avez noté que la limite de la finesse était de l'ordre de la seconde d'angle. Aujourd'hui, les exigences sont environ 50 à 100 fois plus grandes. La précision de poursuite des instruments au sol doit être extrêmement grande, et ceci est une spécification, comme nous disons, une contrainte qui est donnée aux ingénieurs qui construisent les instruments. Et il se trouve qu'il y a des ingénieurs qui sont vraiment des hommes, des femmes prodigieux, car ils construisent des appareils qui répondent à ces spécifications en luttant contre les frottements, en utilisant des boucles d'asservissement, que ce soit au sol ou dans l'espace. Vous demandiez quelles étaient les pauses les plus longues. Un des records, ce n'est peut-être pas le record absolu, c'est ce qu'on a appelé le champ profond de Hubble, que je n'ai pas ici, où il y a 8 jours de temps de pause. Il arrive fréquemment que des télescopes au sol fassent des pauses d'une nuit, voire de plusieurs nuits cumulées, et on additionne simplement l'image. Et on ne tolère pas que dans cette accumulation de pauses, les temps de pause, la finesse de l'image ait été dégradée par des mouvements parasites. Naturellement, quand on est limité par l'agitation de l'atmosphère, et c'est le cas dans certains interféromètres encore aujourd'hui, car on ne sait pas corriger complètement cet effet, alors les temps de pause peuvent être extrêmement courts, quelques centièmes de seconde, et dans ce cas, eh bien, on est limité à l'observation d'objets brillants, car on n'a pas assez de photons pendant ce temps très court pour une mesure sur un objet très faible, comme vous l'avez à nouveau très justement rappelé.
Si l'on trouvait, peut-être qu'on a trouvé d'ailleurs, 3 exoplanètes autour d'une étoile,
on a trouvé.
Est-ce qu'il serait possible de vérifier qu'elles sont dans un même plan, ou du moins enfin, qu'elles seraient donc dans une géométrie semblable à un système solaire? Est-ce que dans l'avenir, il sera possible de vérifier ce type de données?
La formation d'un disque autour d'une étoile et lors du processus d'accrétion de l'étoile est un mécanisme universel, vous l'avez vu, et lié à une propriété mécanique extrêmement simple de la rotation du nuage. Et ici, vous voyez que la formation du disque se produit très tôt. Elle est, je le répète, contrainte par la rotation du nuage autour d'un axe perpendiculaire au disque. C'est un phénomène très général qu'on retrouve dans les galaxies spirales, par exemple, qui sont également des disques en rotation dans le plan du disque. Et ensuite, eh bien, la formation des planètes ne peut se faire que dans ce plan du disque. Donc, nous savons, par la théorie et par l'observation des disques, déjà que les systèmes planétaires seront des systèmes coplanaires. Néanmoins, dans le système solaire, nous connaissons des objets légers, qui sont les comètes, qui ne sont pas toutes dans le plan de l'écliptique. Mais ceci est dû parce que ces objets sont facilement légers, sont facilement perturbés par la présence des planètes, et qu'ils viennent des confins les plus extrêmes du nuage, c'est-à-dire ici et là, où le disque n'a pas encore été ou n'est pas formé de manière aussi précise que proche de l'étoile. Donc ces deux raisons font qu'effectivement dans le système solaire et très vraisemblablement dans ces systèmes planétaires, on observera des comètes qui ont des trajectoires hors du disque.
Oui, bonsoir. C'est une question très ponctuelle. Vous avez dit que sur certains sites internet, on pouvait voir les images du Soleil 30 ans mises par seconde. Quels sont ces sites, s'il vous plaît ?
Alors, je vous conseille d'aller voir le site de l'Agence spatiale européenne, donc ESA ou Agence spatiale européenne, et vous y trouverez plusieurs de ces séquences que je vous ai montrées tout à l'heure. Très belles. Je n'ai pas l'adresse du site ici, mais tout moteur de recherche trouvera Agence spatiale européenne.
Vous avez fait un parallélisme entre les astuces de l'œil et les astuces des instruments d'optique utilisés en astrophysique. En biologie, il y a des astuces qui sont employées par la nature, à savoir la vision binoculaire et à savoir les multiples facettes d'un œil de mouche, par exemple. Est-ce que il existe des possibilités en astrophysique qui utiliseraient ces astuces biologiques?
La vision binoculaire n'est pas une vision d'un interféromètre à la manière de deux télescopes observant. Et le traitement de l'image est fait dans le cerveau et non pas sur la rétine. C'est la comparaison par le cerveau des deux images rétiniennes qui conduit à la perception cognitive du relief. L'œil de mouche, par contre, est une façon de découper le paysage en un grand nombre de petits sous-paysages qui est utilisé par certains instruments d'observation. Je crois que le parallèle s'arrête là. Mais je voudrais prolonger votre question pour revenir à l'œil dont j'ai parlé tout à l'heure et dont j'ai dit qu'il était affligé d'aberrations qui nous font myope, presbyte ou astigmate. Une autre conséquence, si l'on peut baisser à nouveau la lumière, une autre conséquence de ces aberrations de l'œil est que quand on veut observer depuis l'extérieur, sur un œil vivant, à l'aide d'un ophtalmoscope, la rétine de l'œil pour la photographier, eh bien, la lumière issue de la rétine, qui aura été éclairée indépendamment, va être traversée tous les milieux de l'œil et l'image qu'on en formera à l'extérieur sera très fortement déformée. On perdra ainsi une vision précise de l'œil vivant, on peut toujours évidemment le disséquer, qui permettrait de voir les détails de la rétine. Eh bien, ce n'est pas un des moindres paradoxes, cette fois, d'un service de l'astronomie à la biologie, et non pas le sens inverse, évidemment, très intéressant aussi, que d'utiliser l'optique adaptative, dont j'ai longuement parlé ce soir, pour faire depuis l'extérieur de l'œil, en illuminant la rétine et en corrigeant les aberrations de l'œil, une image de la rétine qui est 10 fois plus de finesse que les images habituelles. Et je vais vous montrer cette image. La voici. C'est une petite couche de rétine qui fait environ 1/3 de millimètre de long, sur lequel vous pouvez discerner des petites cellules qui sont les cônes qui font la vision de jour, et la résolution de cette image, c'est-à-dire notamment la vision des frontières entre les cônes, est environ 10 fois meilleure que les techniques d'imagerie classiques utilisées en ophtalmologie pour imager la rétine. C'est donc une application un peu inattendue de l'optique adaptative développée au bénéfice des astronomes et des militaires aussi, il faut le dire, pour des applications biologiques et médicales qui sont très nombreuses, mais ces travaux sont tout récents.
Bonsoir monsieur, je suis Bonsoir. Japonais et je trouve votre conférence très sympathique puisque en japonais est censé très intéressé par le détail. Et deuxièmement, en japonais, est très terre-à-terre. Depuis ces deux points de vue, j'oserais vous poser la question sur un terme que vous avez utilisé, c'est-à-dire exoplanète, que j'ai trouvé dans ce journal Le Monde. J'ai cherché dans le Petit Larousse de 2001, je n'ai pas trouvé ce mot exoplanète. Alors, je suis un peu embarrassé, mais heureusement, il y a 2 ou 3 jours, j'ai trouvé sur l'écran un mot qui dit « planète extrasolaire ». Est-ce que ce terme « planète extrasolaire » et « exoplanète » sont les mêmes choses, c'est-à-dire synonymes. Et puis, vous avez utilisé exoplanète avec un trait d'union. Voyez-vous comme je m'occupe de détails. Est-ce que pour écrire exoplanète, faut-il mettre nécessairement ce petit trait d'union, puisque ça augmente l'embarras de l'usager? Voilà, excusez-moi, une question bien étrange.
Non, monsieur, elle n'est pas étrange, parce qu'elle souligne combien toute découverte scientifique, combien tout nouveau champ est accompagné d'hésitations sémantiques. Les mots traduisent des choses que nous voyons ou des concepts que nous imaginons. Aussi longtemps que le concept n'est pas fixé, que la chose hésite, qu'on n'en a pas fait l'image en particulier, le mot hésite aussi. C'est le propre de la langue que d'accompagner dans ses balbutiements le balbutiement de la connaissance. Et les exoplanètes sont récentes, et donc plusieurs termes coexistent dans la littérature, et même plusieurs graphies de ces termes, avec ou sans tiret, qui tentent de dire quelque chose de nouveau. Pourquoi exoplanètes? Eh bien, parce qu'on veut les distinguer de ce que, depuis 25 siècles, le langage courant appelle les planètes. Planétès, les astres errants, racine grecque du terme, qui veut dire que ces objets, contrairement aux étoiles fixes, se déplacent en permanence par rapport à ces étoiles dans le ciel et forment donc des trajectoires. Astres errants autour du Soleil, d'où planète. S'agissant d'autres objets semblant appartenir à la même catégorie, ne brillant pas par eux-mêmes, formés avec des masses bien inférieures à la masse de l'étoile, orbitant autour d'une étoile, mais trouvés autour d'autres étoiles que le Soleil, comment les nommer? Planète extrasolaire, disent certains, exoplanète, disent d'autres, avec ou sans tiret, l'avenir dira, comme pour beaucoup de concepts, quel est celui qui finit par être adopté. L'anglais et le français, d'ailleurs, et peut-être le japonais aussi, étant en concurrence, extrasolar planets, exoplanètes, et le petit Larousse venant, comme souvent, consacrer l'usage.
Bonsoir, monsieur. Vous nous avez donné quelques exemples d'interféromètres optiques terrestres qui ont finalement tous des bases assez courtes. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui limite l'étendue de la base d'un interféromètre sur Terre en optique?
La propagation horizontale des faisceaux. Il ne suffit pas de collecter les deux faisceaux sur chacun des télescopes, et je vais reproduire ici, par exemple, l'image du site de Mauna Kea. Ah oui, la lumière à nouveau, si c'est possible. Donc, il ne suffit pas de collecter, venant d'une étoile quelconque, dotée ou non d'exoplanètes, la lumière avec, mettons, ce télescope-ci et celui-là, mais encore faut-il les faire interférer, c'est-à-dire faire cheminer chacun de ces deux faisceaux vers un point commun. S'agissant du VLT, comment faire cheminer? S'agissant donc du VLT, eh bien, ce cheminement est assuré dans des tunnels souterrains, thermostatés. On peut également, c'est le cas de certains interféromètres, faire un cheminement sous vide, dans des tuyaux évacués d'air et où la lumière n'est pas perturbée. Vous comprenez que la traversée de quelques kilomètres d'atmosphère a conduit à une dégradation de l'onde lumineuse, mais la propagation horizontale pourrait accroître cette dégradation. Donc, on va la faire dans un tuyau bien protégé, sur peut-être un tube à vide, mais on envisagera difficilement de faire ça, sauf à des coûts extrêmes, sur des distances supérieures au kilomètre ou à quelques kilomètres. J'ai dit tout à l'heure que cette distance-là est de 800 mètres. On envisage à l'avenir de le faire à l'aide de fibres optiques. Et c'est une solution qui, elle, permettrait des grandes distances sans que le faisceau soit perturbé. Le développement très important des fibres optiques pour les télécommunications offre, de ce point de vue, aux astronomes des perspectives intéressantes que nous étudions d'ailleurs à l'Observatoire de Paris actuellement. Naturellement, les grandes bases, celles qui serviraient à imager la Terre, que j'évoquais tout à l'heure, de plusieurs centaines de kilomètres ne peuvent être envisagées que dans l'espace. Et ce sont les instruments qui seront lancés dans une vingtaine d'années sans doute, 30 ans.
Bonsoir, monsieur Léna, je voulais vous remercier pour votre intervention. Et quand vous avez parlé d'interféromètre tout à l'heure, je voulais vous demander comment pouvait fonctionner un tel miroir corrigeant les images arrivant de l'espace.
Vous parlez d'un miroir adaptatif,
oui.
C'est-à-dire le miroir qui se gondole, comme je le montrais tout à l'heure sur la simulation.
Oui, exactement.
Ceci. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. C'est une membrane métallique mince, tendue sur un tambour qui peut faire cette taille-ci à peu près, et dont la surface est contrôlée en permanence par différents procédés. Ça peut être des capteurs piézoélectriques qui sont placés du côté non réfléchissant, c'est-à-dire ici qui serait derrière le miroir. Ça peut être des électroaimants qui mettent le miroir en mouvement. On utilise aussi d'autres techniques particulièrement intéressantes parce que miniaturisables et capables de corriger une surface comprenant un très grand nombre de points indépendants, qui est la modulation de la phase de la lumière, car c'est ce que fait ce miroir, par des cristaux liquides. Et les très grands télescopes de l'avenir, de 30 mètres de diamètre par exemple, vont demander des miroirs correcteurs qui aient plusieurs milliers d'éléments indépendants de correction. Parce que, comme le diamètre est grand et qu'on va recevoir une onde lumineuse qui a beaucoup de bosses et de creux, il faut corriger chacune de ces bosses et de ces creux indépendamment. Et ceci ne peut guère être fait par les moyens mécaniques que j'évoquais à l'instant. Il faudra faire appel à des cristaux liquides. Il y a un immense champ de développement dont les applications, je le répète, ne sont pas seulement astronomiques, elles sont biologiques, comme monsieur m'a suggéré de vous le montrer, mais aussi dans d'autres domaines de contrôle industriel extrêmement intéressants.
Pierre Léna, je vous remercie.
Merci beaucoup.